avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, c'est Hélène Denis, oui, qui est avec vous. Alléluia, il est de retour. Je parle pas de vous, Mathieu, vous êtes toujours là ou presque. Je parle du soleil. Le soleil dans toute sa splendeur en ce dernier lundi de mai, hein, on l'attendait. Il s'est pointé hier, mais c'était une drôle de journée hier parce qu'il a fait soleil en matinée, puis ensuite il s'est mis à pleuvoir très, très fort. Alors ceux qui sont partis faire des courses sans parapluie se sont fait prendre... Ça va, Mathieu?
Vous savez que les pilotes vous diraient le soleil est toujours là, il est juste au-dessus des nuages.
Oui, mais on aime
faut
bien
juste
ça
en
le
connaître,
voir.
des poètes, des pilotes.
Oui, et on aime le voir et on aime se faire chauffer la couenne aussi par lui, comme le chante Heureux d'un printemps, M. Paul Piché. Comment ça va, Louis?
Bonjour, Hélène. Ça va bien, merci.
Monopoly et Tombola aujourd'hui.
Oui, des jeux. On parlera de la Seconde Guerre mondiale, du jeu du Monopoly, qui a permis à beaucoup de prisonniers britanniques, notamment, de s'évader. Ils étaient prisonniers. C'est une histoire qui est restée secrète pendant une bonne soixantaine d'années. Et je ne la connaissais pas, donc un petit bout d'histoire. Et puis un autre jeu en Irlande, une tombola pour gagner une maison, plein de participants. Et pour 6 euros seulement, vous pouvez être l'heureux propriétaire d'une maison.
Louis qui porte la culotte courte aujourd'hui.
Mais oui, le soleil est de retour, alors les shorts sont de sortie.
Oui, vous êtes toujours pressés. Alors, on est bien dehors, là. Je pense qu'il faisait 17 ce matin, je ne sais pas trop.
13-14.
Oui, 13-14, puis ça va monter.
Oui, on va monter au-dessus des 17.
Alors, ça fait beaucoup de bien. Daniel, êtes-vous dans vos bosquets?
Ah ben dans les bosquets, moi j'ai beaucoup adoré la grisaille et puis la fraîcheur parce que j'ai planté beaucoup de vivaces, donc elles ne souffrent pas de la chaleur.
Ah mais oui, là, la pluie ne vous a pas empêché d'être dehors.
Non.
On n'est pas fait en chocolat.
Non, comme dirait Mathieu. Mais
tricots-machines.
Ça permet aux plantes de s'enraciner, donc moi c'est parfait. Mais là, le soleil va être bienvenu pour que ça puisse fleurir maintenant.
Entre les lignes, est en train de nous dire, arrêtez donc de vous plaindre.
Ben c'est ça, mais moi j'aime ça, c'est l'occasion de faire du ménage, tu sais, faire du tri,
oui, je suis à peu près de votre côté, dans votre équipe. Mais là, ça faisait quand même longtemps là, qu'on n'avait pas eu des belles journées complètes de lumière, de ciel bleu.
Tout à fait. Ben, parlant de bleu, j'ai une belle découverte. Hein?
Oui, une nouvelle couleur, toi.
Oui, une nouvelle couleur, puis c'est une percée médicale, et puis c'est un chercheur ontarien. Ça va pouvoir mener à un traitement pour le daltonisme et des maladies dégénératives de l'œil.
Super.
Et après, là, je vous parlerai de savon de façon particulière. Je vous poserai une couple de petites questions.
Ah oui, les savons qui font des bulles?
Ah, ça va être autre chose. Allez voir. Okay. On va voir si c'était des petites manies.
Bon, alors, on est pendu à vos lèvres. Et puis, on aura aussi la visite, en fait. Il devait venir en studio, mais il est en pleine répétition à l'usine C d'Hiroshima, mon amour, en version opératique. C'est Christian Lapointe qui sera avec nous vers la fin de cette émission. Dun, dun, da, da. Dun, dun, da, da. Dun, dun, da, da.
Les arbres, mes deux amants sont doux.
Je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Isabelle Pierre et sa chanson « Le temps est bon ».
À la une du Devoir d'aujourd'hui, les États-Unis commémorent la mort de George Floyd. Des membres de la famille de George Floyd tués il y a 5 ans par un policier blanc, ça s'est déroulé un 25 mai, n'ont pu dissimuler leur émotion lors de la cérémonie commémorative qui s'est tenue dimanche à Houston. D'autres hommages ont eu lieu dans plusieurs villes américaines alors que Donald Trump fait marche arrière sur toutes les réformes destinées à lutter contre le racisme. Des médecins tentés par la retraite, certains jugent que la réforme voulue par Québec envoie le message que leur contribution n'a plus de valeur. Découragés, des médecins de famille québécois dans la soixantaine songent à devancer leur retraite si Québec adopte son projet de loi pour lier la rémunération à leur performance. Pour ces professionnels qui ont allégé leur pratique, soit à cause de soucis physiques ou par besoin de ralentir le rythme en fin de carrière, cette réforme envoie un message clair, leur contribution n'a plus de valeur. Le 8 mai dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé le projet de loi 106. Ce texte législatif prévoit, entre autres, que jusqu'au quart de la rémunération des médecins de famille dépend de leur performance, c'est-à-dire l'atteinte d'objectifs. Je vous lis la suite de ce texte. En entrevue avec Le Devoir, le docteur Bernard Gauthier, un médecin de famille montréalais de 67 ans, affirme qu'il prendra certainement sa retraite si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle. L'omnipraticien qui pratique depuis 41 ans travaille 3 jours par semaine à son cabinet, une 4e journée consacrée à remplir des formulaires. Il raconte avoir réduit sa patientèle de 1500 à 1200 ces dernières années. « C'était trop pour moi. La population vieillit, alors les gens sont plus malades et ça prend plus de temps en consultation. J'aime ma profession, c'est pour cela que je l'exerce, même si j'ai presque 68 ans. Alors de se faire dire qu'on est paresseux et qu'on pourrait en faire plus, ça m'affecte beaucoup, dit-il. Le docteur Gauthier ne serait pas un cas isolé, selon le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Amiot. Dans le contexte de pénurie d'au moins 2000 médecins de famille au Québec, on essaie de dire à ces médecins de rester encore un peu dans la profession car on a besoin d'eux. Mais de voir le projet de loi 106 et la non-reconnaissance de leur travail, ça en décourage plusieurs, dit-il. C'est le cas du docteur Laurent Jacob, 63 ans, qui pratique depuis bientôt 32 ans sa profession qu'il adore. Jovial et loquace, le médecin de famille rencontré dans son cabinet à Saint-Hippolyte dans les Laurentides, devient sérieux lorsqu'il aborde l'objectif de Québec de lier une partie de la rémunération des omnipraticiens à leur performance. « J'ai besoin d'exprimer ma déception, » affirme-t-il. Ce qu'on entend actuellement dans le message du gouvernement, c'est que notre travail, n'a pas de valeur. Une visite royale qui divise malgré l'hostilité de certains à la monarchie, aucune grande manifestation ne devrait perturber le passage de Charles III au Canada. C'est un autre titre à la une du Devoir d'aujourd'hui. Et le roi Charles III est à la une du Journal de Montréal. Il arrive donc au Canada aujourd'hui, de plus en plus cher et impopulaire. On en parle en page 3 à 5 dans le journal. On a fait donc un sondage web qui a été réalisé du 16 au 18 mai 2025 auprès de 1011 Québécois âgés de 18 ans ou plus. Les répondants ont été recrutés aléatoirement à l'aide du panel en ligne de Léo. Léo. Qu'est-ce que c'est que Léo? Je ne sais pas. Il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un panel, mais à titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 3,8 %, et ce, 19 fois sur 20. Alors, cela dit, à la question si un référendum avait lieu aujourd'hui pour décider si le Canada devrait mettre fin à son lien avec la monarchie britannique et devenir une république ou non, pour quelle option voteriez-vous? 52 % pour mettre fin à la monarchie et que le Canada devienne une république. Autre question, êtes-vous favorable ou défavorable à l'invitation au roi Charles III de venir faire le discours du trône au Canada à l'ouverture de la prochaine session au Parlement du Canada? Non à 87 %. C'était non à 81 % en septembre 2022. Et puis, je termine avec la une de la presse plus... Une femme qui l'a échappé belle, Kim, n'avait pas de pouls. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, une quinzaine de minutes après son appel, Kim Janson avait eu le temps de mourir cliniquement. Mais grâce à l'intervention rapide de sa voisine, Mélissa Colette, elle a survécu. Et quand on lit la chronique de Patrick Lagacé, on peut aussi ajouter le nom de Lynn, la femme de ménage de Kim, qui a averti la voisine Mélissa Colette, qui est une infirmière. Et Kim dénonce aujourd'hui la lenteur du 911 qui aurait pu lui coûter la vie.
Thank you.
une drôle de fin, disons-le, pour la chanson Léo de Valence.
C'est drôle parce que la chanson, c'est Léo. Et puis, je me demandais que voulait dire Léo. Léo en lien avec le sondage concernant la venue de Charles III à la monarchie et tout ça. Parce que je lisais que les répondants ont été recrutés aléatoirement à l'aide du panel en ligne de Léo. Alors, Léo, c'est Léger Opinion, une application mobile qui permet à ses utilisateurs de répondre à des sondages sur leur téléphone depuis 2019. On en apprend à tous les jours. Et puis, je suis certaine que vous allez en apprendre à plusieurs personnes qui n'ont pas lu cet article qui a été publié dans la presse d'hier et qui est repris aujourd'hui dans la presse, puisque c'est un texte qui a été retenu, étant donné que c'est un texte absolument spectaculaire, une nouvelle couleur qui est une percée médicale en même temps, Daniel.
Très intéressant en plus, et là, ça va requérir l'attention de tous. Je vais vous dire quelques mots-clés à retenir. Alors, je vais vous parler de cône et il y aura aussi je vais vous parler de bâtonnets, ces deux trucs okay, différents.
Pas des cônes oranges ni des bâtonnets de fromage, là.
Pas du tout, pas du tout. Alors, cône et bâtonnets, on parle de l'œil et je vais vous parler de certaines mesures nanomètres. Alors, retenez ce mot-là, ces trois mots-là. Cône,
mais là, vous nous en demandez
nanomètres.
Pas mal. Là.
Ben, c'est parce que je trouve que c'est un texte qui peut être rigoureux pour débuter
oui.
une journée.
Nanomètres, en fait. Donc. Cône, bâtonnets et nanomètres.
C'est ça, pour vous aider à me suivre. Alors, c'est comme je vous disais, ça a apparu dans la presse hier et aujourd'hui encore, parce que c'est un texte quand même, c'est une percée médicale. C'est une découverte qui pourrait mener à un traitement pour le daltonisme et des maladies dégénératives de l'œil, et c'est Mathieu Perrault qui a publié cet article. Alors, nous avons réussi à stimuler seulement une partie de l'œil. C'est ce qu'explique le neurobiologiste Austin Rourda de l'Université de Californie à Berkeley, qui est l'auteur de l'étude publiée en avril dans la revue Science Advance. Et ce monsieur Austin Rourda est un Ontarien. Ça a activé des photorécepteurs qui normalement ne sont pas activés seuls. Ils correspondent à un vert qui normalement n'est pas visible, d'où cette nouvelle couleur. C'est vraiment une nouvelle couleur, il l'affirme. La rétine de l'œil contient 6 millions de cônes, des photorécepteurs qui reçoivent chacun une longueur d'onde différente correspondant à une couleur différente. Là, il y a trois catégories de cônes. Il y a les longs, il y a les moyens et les courts. Il faut retenir. Les cônes stimulés par M. Rourda sont dans la catégorie moyenne. Or, les cônes moyens ne sont jamais stimulés isolément, mais toujours conjointement avec des cônes de catégorie longue ou courte. Ça signifie que la longueur d'onde des cônes moyens, soit la couleur qu'ils captent, n'est jamais vue par le cerveau. Le but de l'expérience était de savoir si le cerveau, face à des informations sensorielles nouvelles, peut les utiliser pour créer de nouveaux concepts. Ben, si c'est le cas, ça signifie que le cerveau a cette plasticité. C'est encourageant pour le traitement des problèmes de vision. Alors, c'est d'où l'importance de cet article. Mais s'agit-il vraiment d'une nouvelle couleur, le fameux vert? C'est la même différence qu'entre le rouge et le rose, répond M. Rourda. La plupart des gens diraient que ce sont deux couleurs différentes, hein, le rouge et le rose. Une chose est sûre, un tel vert n'a jamais pu être vu par un être humain. C'est un vert avec un peu moins de blanc. Parce que l'appareil de M. Rourda permet de stimuler en même temps 4000 cônes dans la rétine. Lors de l'expérience qui a permis d'identifier ce nouveau vert, 250 cônes ont été stimulés. Cet appareil permet de stimuler seulement certains des cônes moyens de l'œil. Entre 5 % et 10 % des cônes sont courts. Le reste, ce sont des cônes moyens et longs. Il y a deux fois plus de cônes longs que moyens, mais c'est variable d'une personne à l'autre. Lui, M. Rourda, il a 1,3 fois plus de cônes longs que de cônes moyens, mais un de ses collègues a trois fois plus de cônes longs que de cônes moyens. Alors, les trois types de cônes sont répartis partout dans la rétine. Les concours captent généralement les longueurs d'onde autour, et là, c'est le nanomètre est important. Alors, les concours captent généralement les longueurs d'onde autour de 440 nanomètres, correspondant à un bleu violet. Les moyens, celles autour de 535 nanomètres, correspondent à un jaune verdâtre. Et les longs, les longueurs d'onde de 559 nanomètres, vont de l'orange au rouge. À titre de comparaison, M. Rourda indique que le jaune correspond à la longueur d'onde de 589 nanomètres. Tout le monde serait d'accord pour qualifier de jaune une longueur d'onde dans une fourchette de 4 à 5 nanomètres de part et d'autre de 589 nanomètres. Alors, les sensibilités spectrales des types de cônes courts et longs chevauchent celles des moyens, ce qui signifie qu'aucune lumière naturelle ne peut stimuler seulement les cônes moyens. La nouvelle couleur détectée par Austin Rourda correspond à une longueur d'onde de 510 nanomètres. Ça nous fait pas mal de calculs, là, hein? Beaucoup d'attention.
On vous suit.
Ah oui. Alors, là, ici, je vous parle de daltonisme. La découverte, cette belle découverte, pourrait permettre de contrer le daltonisme qui empêche de distinguer le rouge et le vert. Ce trouble, maintenant appelé dichromatisme, est causé par l'absence des cônes longs ou moyens. On pourrait peut-être entraîner le cerveau à percevoir une autre couleur en stimulant seulement certains cônes, dit M. Rourda. Une autre étape pourrait être une thérapie génique pour créer le type de cône manquant. M. Rourda estime qu'une couleur pourrait être visible même s'il y a moins de cônes du type manquant que normalement. Si on parle de daltonisme, le daltonisme touche 1% des hommes et est très rarement chez les femmes. On ne le retrouve pas, en tout cas de façon très rare chez les femmes. Environ 8% des hommes ont une forme mineure de dichromatisme. Certaines femmes, entre 1 et 10 % sont même, on dit, tétrachromatiques, c'est-à-dire qu'elles ont quatre types de cônes, ce qui ça complexifie là, toute l'affaire. Alors, ce n'est pas évident sans test, parce qu'il s'agit de deux types légèrement différents de cônes longs, note le chercheur, quand il parle des femmes. Cette technologie pourrait aussi être utilisée pour d'autres maladies dégénératives de l'œil, comme la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire, c'est un type de vision en tunnel qui apparaît généralement au début de l'âge adulte et est liée à la dégradation des cônes. Ça touche une personne sur 5000, donc il y aurait 1500 Québécois et qui seraient atteints de cette maladie, et elle est héréditaire en plus. Alors, le nombre de cônes, la question que l'on pose, le nombre de cônes, est-ce qu'il diminue avec l'âge? Pas beaucoup. Je fais de l'imagerie avec mes cônes depuis plus longtemps que quiconque sur la planète. J'ai eu la chance en 1996 d'être dans le premier laboratoire au monde à avoir une caméra adaptative capable d'observer les cônes. Et je n'ai perdu, depuis 2000, qu'un ou deux cônes sur les 4 à 5 000 que j'ai. Donc, c'est quand même bien. L'ambition du scientifique est de stimuler sélectivement les cônes de la fovéa, la partie centrale de l'œil, qui sert à la vision de précision. La fovéa ne mesure que 100 micromètres, alors c'est minuscule. Elle contient la plus haute densité de cônes. M. Rourda a bon espoir d'y arriver avant sa retraite. En ce qui concerne maintenant la vision nocturne, il y a un quatrième type de photorécepteur qui est plutôt appelé bâtonnet. Là, c'est là le mot bâtonnet. Les bâtonnets, ils servent à la vision nocturne et est beaucoup plus abondant. Il y aurait 100 millions de bâtonnets dans l'œil que les trois types de cônes. Donc, c'est vous dire, c'est très varié. Il y en a énormément. Les bâtonnets sont très sensibles et donc ne sont pas très utiles le jour parce qu'ils saturent très rarement, note M. Rourda. Et en terminant, ben écoutez, il y a 10 millions, c'est le nombre de couleurs distinctes que l'œil peut voir.
Combien?
Il y a 10 millions et le nombre de couleurs distinctes que l'œil humain peut voir.
Je connais même pas 10 millions de couleurs.
Ben non. Ça doit être assez, il doit y avoir beaucoup, 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 énormément de nuances.
Oui, ça c'est
là.
Sûr.
Ça, il doit
plus
avoir
que 50 nuances de gris.
Ouais, plus, oui, il doit en avoir pas mal. Ouais, peut-être, d'où le titre. En tout cas, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même intéressant. C'est une belle percée médicale qui pourrait sûrement être bien pour certains de nos auditeurs. Hein, on ne sait jamais.
Et on se rend compte que l'œil est une fabuleuse machine.
Oui, parce que quand on perd la vue, on perd 80% de l'information autour de nous. Hein. Et puis, je vous disais un peu plus tôt que je m'occupe de personnes non-voyantes, des amis. Et puis, je le constate avec eux à quel point les yeux, c'est important. Puis d'ailleurs, en fin de semaine, on parlait du vocabulaire lié on utilise le vocabulaire lié à la vue. Tu sais, quand je parle à mon amie, je lui dis, regarde, as-tu vu ça?
Ouais.
Je vais te montrer ça. Puis elle me disait, c'est vrai, beaucoup de mots sont liés à la vision.
Mais je pense que les personnes avec un handicap visuel ne veulent pas qu'on se censure à ce point de vue-là, hein?
Non, du tout. Tout ça, ça peut dépendre. Non, c'est naturel, hein. Moi, quand je parle à mon ami, je dis, as-tu vu ça? Regarde, je vais te le montrer. Touche. As-tu observé? Je vais te le faire observer. Puis, puis c'est vraiment, c'est un univers, hein, complet. Et d'ailleurs, je lui dis, en fin de semaine, elle cause avec des gens sur FaceTime. J'ai dit, ben, vous devez avoir du plaisir à, est-ce que vous voyez quand vous, tu sais, le réflexe, est-ce que vous voyez sur FaceTime? Parce que nous, on a l'habitude de se voir. Ben, Danielle a dit, je vois pas pourquoi je les verrais, je les vois pas.
Non, mais ils font quand même des FaceTime.
Ah, oh, ils font des messengers sans FaceTime, mais c'est juste que c'est drôle. C'est un réflexe, hein? On a un réflexe tout simplement.
Oui, tout à fait. Et puis, ces personnes qui ont des problèmes de vision aiment aussi aller au musée et regardent les œuvres autrement. Ils ont aussi la chance souvent de toucher certaines œuvres à travers des visites guidées.
Et puis, elle lit beaucoup, mon amie, donc c'est bien.
Elle s'appelle aussi. Comment, votre amie?
Claudine.
Claudine. Lui dit un beau bonjour à Claudine.
Oui.
Et Danielle, on ne vous dit pas tout de suite bonjour parce
non.
que vous allez revenir au retour de la pause
et
de la chanson. Vous allez nous parler savon. À tout de suite.
On se savonne.
Avant de parler savon, on va vous présenter une nouvelle chanson d'Andrea Lindsay.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'espérais enfin trouver un cœur parfait.
rien à perdre, une chanson d'Andrea Lindsay.
Danielle Rioux, vous nous intriguez.
Ben oui, mais la question, je vais vous poser une question. Quand vous voyagez, qu'est-ce que vous faites avec les savons à l'hôtel?
Ah, je les ramasse tous. Ben surtout s'ils sentent bon.
Oui, hein? Puis Louis, vous, est-ce que vous faites la même chose?
Ça peut m'arriver, oui, effectivement.
Ben c'est
si
pour
c'est
nous.
Là. Oui, oui.
Oui, puis Mathieu?
Je crois que je ne me lave pas en voyage.
Ah, ben là, et j'ai l'art de contredire lui. Ben écoutez, la question ici, c'est...
Et vous, Daniel?
Ben moi, je les ramasse. Ouais. Je ramasse les petits savons. Parce que ça me rappelle une de mes tantes qui voyageait, puis elle avait toujours un pot avec des mini-savons, puis ça, c'est le souvenir de ce petit pot-là. Puis je ramasse les savons pour... Ben, après ça, ça me fait rêver, mes voyages.
C'est sûr.
Hein? Mais on se pose la question, ceux qui ne ramassent pas, ben, qu'est-ce qui arrive avec les savons qui sont peu utilisés? Donc, il y a Unisoap qui fait quelque chose de pas mal bien. Elle récupère, c'est en France, récupère les savons non utilisés. Puis il y a près de 51 millions d'entre eux, de ces savons, qui sont jetés chaque année. Alors, c'est un organisme lyonnais qui s'est donné justement une mission, celle d'éviter le gaspillage et d'en mettre fin. Cet article paru dans la presse du 27 janvier dernier. Alors, depuis sa création en 2017, Unisoap a recyclé près de 70 000 savons d'hôtel pour les remettre à des plus démunis. On pense souvent aux besoins alimentaires, mais en fait, les personnes en situation de précarité ont aussi besoin, en ce qui concerne l'hygiène et le bien-être, hein? Ça fait du bien. Alors, c'est Océane Chancel qui est chargée de communication chez Unisoap qui mentionne cela. Selon l'organisme, près de 3 millions de personnes n'ont pas accès aux produits d'hygiène de base en France. Alors, comme je le mentionnais, Unisoap a recyclé 70 000 savons, à partir desquels l'organisme en fabrique de nouveaux, qui sont ensuite offerts à des personnes dans le besoin. Et puis, ils ont des partenaires, donc, entre autres, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, et ou les restaurants du cœur. Les savons sont remis à des personnes sans domicile fixe, des réfugiés, des femmes victimes de violences, des personnes handicapées et des étudiants.
Ils font du chemin, ces savons-là?
Énormément. C'est essentiel dans la société de pouvoir se laver, c'est la moindre des choses. Mathieu est à part, là. Mais pour l'inclusion, c'est vraiment très important. Et comment ça fonctionne? Bon, ben, les hôtels ramassent d'abord les savons. Ils font ensuite un don en argent à Unisoap, qui est un montant proportionnel à leur nombre de chambres. Les hôtels qui travaillent avec nous, ben, ce sont nos principaux mécènes, c'est ce que mentionne Mme Chancel, et leur don est déductible d'impôts à hauteur de 60 %. Pour eux, ça ne revient pas à grand-chose, mais pour nous, ça permet de faire perdurer l'activité. L'organisme a fait affaire avec 470 hôtels partenaires en France, en Belgique et en Italie. Et ça va tellement bien qu'en 2023, Unisoap a ouvert une antenne aux Émirats d'Arabes Unis. Dans les hôtels, derrière tout cela, il y a aussi les salariés, ceux qui font le ménage, ceux qui nous donnent les savons, parce que aussi sont contents, parce qu'ils constataient qu'il y avait un gaspillage phénoménal et ils ne savaient pas comment faire ou comment agir. Et pour des raisons d'hygiène, donc, la couche supérieure du savon est retirée complètement. Contrairement au savon liquide, le savon solide est bactériostatique. Les bactéries ne peuvent pas s'y répandre à l'intérieur. Le savon est ensuite fondu pour être reconstitué en pain de savon. Et jusqu'ici, il y a 16 tonnes de savon qui ont été récupérées. Ces tâches sont réalisées au sein d'établissements et services d'accompagnement par le travail, des lieux où des personnes handicapées peuvent travailler en bénéficiant d'un soutien médical et social. Et tout est dans un lieu adapté pour qu'elles puissent monter en compétences et plus tard travailler dans une entreprise classique. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait la même chose avec les draps d'hôtel, en plus des savons. Ben, Unisoap collecte depuis 2 ans les surplus des entreprises qui fabriquent des produits d'hygiène et de cosmétiques, les invendus, les fins de série ou ceux avec de petits défauts de qualité. Alors, on ramasse des brosses à dents, du dentifrice, du maquillage, des couches ou encore du détergent. Et ces kits d'hygiène sont ensuite emballés dans des sacs fabriqués à partir d'anciens draps d'hôtel. Alors, comme ce sont sont des objets du quotidien, on ne se rend pas compte à quel point ça peut manquer et à quel point ça peut vraiment apporter du bonheur à une personne et parfois même une famille entière. Et pour Océane Chancel de Unisop et ses collègues, la partie la plus valorisante de leur travail est d'aller sur le terrain et ça nous redonne, comme elle dit, envie de travailler tous les jours. À la fin, il y a une vraie finalité, il y a vraiment des personnes que ça aide. Voilà, on a fait des bulles avec les savons.
On espère que ça fasse des petits, que ça, oui. Ça se passe en Amérique du Nord.
Oui, que ça donne des idées aussi, là.
Oui, merci beaucoup pour ces deux sujets vraiment passionnants, cher Daniel. Puis on espère que vous serez là la semaine prochaine.
Ben oui, j'en ai plein de sujets.
Bonne semaine.
Bye.
Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
Come on, let's do this, gangsta.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fan, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux fan.
C'était une femme like you.
méga succès avec une finale. Ouais, il part juste sur une patch, comme on dit. Et Louis, vous n'êtes pas parti parce qu'il faut que vous nous livriez votre chronique insolite.
Oui, je vous parle de jeux ce matin, deux jeux qui peuvent rapporter très gros. Le premier peut rapporter la liberté, tout simplement. Je ne sais pas si vous êtes une amateur de jeux de société pour les fins de semaine pluvieuses.
Ça m'arrive, mais je ne peux pas dire que je suis une amatrice. Vous?
Oui. Le Monopoly, par exemple, dont je vais parler.
Ah oui?
Oui, le Monopoly qui existe depuis des années. Eh bien, c'est une histoire restée très secrète qui a été déclassifiée en 2007, mais le Monopoly a joué un rôle dans l'histoire de notre monde. Derrière ces billets colorés qu'on connaît un peu tous, ces pions métalliques, se cache une page méconnue, un peu cachée, de la Seconde Guerre mondiale, puisque le Monopoly a servi d'outil d'évasion pour des milliers de soldats alliés capturés. Entre 1939 et 1945, des milliers, même des dizaines de milliers de soldats britanniques ont été faits prisonniers par les nazis et envoyés dans des camps à travers un peu toute l'Europe. Alors, la Convention de Genève autorisait l'envoi de colis humanitaires, incluant des jeux de société, pour occuper les prisonniers. Les Allemands, à l'époque, y voient une aubaine. Selon eux, un prisonnier qui joue pense moins à s'évader. Eh bien, c'est une grave erreur. Parce que les services secrets britanniques ont utilisé cette faille. Christopher Clayton Hutton, dit Clutty, un ex-pilote et un expert en déguisement et en illusion, un peu un magicien, imagine alors une idée audacieuse, transformer le Monopoly en véritable kit d'évasion.
Oh.
Pour mener à bien ce plan, les services britanniques s'associent à John Waddington Limited, c'est l'éditeur anglais du jeu du Monopoly. Grâce à une technique d'impression sur soie mise au point par l'imprimeur des cartes géographiques discrètes, résistantes et silencieuses, des cartes sont dissimulées dans les plateaux de jeu. D'autres accessoires, comme une mini-boussole, est cachée dans un pion, ou même une mini-lime est constituée de deux pions vissés ensemble et complète ce kit étonnant.
On est dans un film de Mission Impossible.
Exactement. S'y ajoutent également des billets, des vrais billets allemands ou français parmi les faux billets glissés parmi ceux du jeu, parce qu'une fois qu'on s'évade, il faut ensuite pouvoir se déplacer et rentrer en Grande-Bretagne. Voilà donc pour ces pièces qui permettent de limer ces vrais billets. Et le tout est signalé subtilement. Un petit point rouge sur la case du stationnement gratuit indique aux prisonniers que la boîte est truquée et va pouvoir leur servir. Un code secret permet aussi de désigner la destination des colis. Par exemple, la carte « Rendez-vous sur la gare de Marylebone » signifie que le jeu est destiné aux détenus en Italie. Enfin voilà, tout ça a été très pensé. Les boîtes sont envoyées par la Croix-Rouge ou via de fausses associations caritatives inventées de toutes pièces. Elles sont accompagnées de messages bibliques, comme par exemple celui-ci. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ce verset devient un clin d'œil codé pour les soldats, explique notamment le site spécialisé « Le fil de l'histoire ». L'opération est si secrète que, selon les consignes, toutes les boîtes utilisées doivent être détruites après usage. Résultat, très peu de preuves matérielles ont survécu et l'histoire ne sera révélée qu'en 2007. Et c'est un vrai pan de l'histoire parce que imaginez que sur les 35 000 soldats alliés qui ont réussi à s'échapper des camps nazis, un tiers, environ 10 000, l'ont été grâce à ce Monopoly clandestin. Et ont pu retrouver la liberté grâce à ces petits pions.
Il me semble que sur le jeu, il y a « aller en prison ».
Oui, eux s'y trouvaient dès le départ et l'objectif
de la prison
était d'en sortir.
Ah oui, c'est absolument fabuleux comme histoire. Une autre histoire qui semble vraiment impressionnante, qui est insolite et qui est vraie, qui se passe en Irlande.
Oui, un autre jeu qui peut rapporter gros. Là, c'est une maison dont il est question. On peut gagner une maison pour seulement 6 euros. C'est un peu l'équivalent du ticket d'or de Charlie et la chocolaterie, mais dans une version immobilière, si on veut. Et c'est le pari que s'est lancé, par exemple, Imelda Collins pour vendre sa maison récemment. La méthode qu'a utilisée la femme de 52 ans lui permet de s'affranchir de toutes les étapes fastidieuses de la vente immobilière. On le sait, ça peut prendre des semaines, des mois, et coûter de l'argent accessoirement. Résultat, jeudi 22 mai, il y a quelques jours, un tirage au sort en ligne a permis à une inconnue, une heureuse inconnue, Kathleen Spangler, de gagner le tirage au sort et de devenir propriétaire de sa maison sans avoir à contracter de prêt et en ayant déboursé seulement 5,92 € pour être très précis, soit un peu moins de 10 $. Pour avoir la chance de remporter cette maison, il suffisait en effet de s'acquitter d'un peu moins de 6 € pour acheter un billet. Alors, il n'y avait pas de visite possible de la maison, mais il y avait 8 photos du cottage irlandais disponibles sur la page internet du tirage au sort.
Une belle maison ?
Oui, il est situé dans le nord de l'Irlande. Le gros lot, donc, prend la forme d'une charmante petite maison de 3 pièces, entièrement rénovée, décorée de papier peint fleuri et disposant d'un jardin, un très grand jardin de 70 hectares.
Ah, on est jaloux de Kathleen.
Oui, de quoi se pouvoir gambader dans l'herbe au grand air. La maison avait été achetée en 2022 pour 130 000 €, auxquels se sont ajoutés environ quand même 150 000 € de travaux. Le tout a été estimé à environ 300 000 €, donc en dollars canadiens, environ 450 000 $. La vente de billets pourrait, on ne connaît pas le chiffre exact, mais a sûrement rapporté plus que cette valeur à la propriétaire, à Imelda Collins. Elle espérait vendre 150 000 billets pour ainsi rentrer dans son argent. Et la rumeur court que, effectivement, le tirage au sort a eu du succès et que cette somme a été dépassée. Elle souhaite utiliser les fonds récoltés pour emménager en Italie et faire un don à une association de défense pour la cause animale, notamment. La méthode est peu commune, mais a déjà été utilisée, notamment en Irlande. Elle s'est inspirée d'un témoignage lu dans un article d'une femme qui racontait déjà son expérience. Les premiers billets ont été vendus en octobre 2024. Ça fait quelques mois donc que cette tombola prend de l'ampleur, que le mot se passe et que ça a du succès. Il y a déjà eu en Irlande 18 maisons comme ça qui ont été vendues par le fondateur du site qui a organisé la tombola. C'est totalement légal, mais l'entreprise quand même doit user d'un petit stratagème pour que les tombolas ne soient pas qualifiés de loteries illégales.
Ah ouais.
La méthode est simple, en fait, il s'agit officiellement de jeux concours. Une question est donc posée aux acheteurs du billet pour qu'ils puissent participer au concours, ce qui suffit pour que ce ne soit pas considéré.
Quel genre de question ?
Eh bien là, en l'occurrence, la question à laquelle ont dû répondre tous les participants, quelle est la couleur associée à l'Irlande ? Et voilà, ensuite vous pouvez acheter votre billet. Question très compliquée donc. Kathleen Spangler a donc eu la bonne réponse. Elle a donc gagné un concours et accessoirement une maison et un joli jardin.
La réponse est verte.
Exactement.
Bien, merci beaucoup. On est bien content pour Kathleen. Gagner une maison restaurée, c'est toute une chance.
Oui.
Au plaisir, Louis.
Avec plaisir.
En dessous de ton visage, il t'a vu tout nu jusqu'au fond des yeux. Il t'a vu en dessous de ton image, il t'a vu tout nu jusqu'au fond du milieu. Jusqu'en dessous du paysage, la carte postale, les montagnes, le ciel bleu. Jusqu'à l'endos, jusqu'au message. Pas trop touriste, plus nomade, plus squatteux. Ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée mais fier. Fier d'aller face au vent mauvais, fier d'aimer même en enfer. Fier de lui, fier de toi aussi. Savoir ton bagage, ce que t'as vu, ce que t'as su, ce que t'es capable de dire. Il veut pas savoir ton faisage, si tu ronnes, si tu sonnes, si t'es capable de sourire. Pour lui, c'est plus le chantage, la mélodie, le son du respire, le son du fond, le grand voyage, celui qu'on n'a jamais fini de finir. Bonhomme de rue, bonhomme de rien, bonhomme qui voit clair. Barbouilleur de parchemin, chercheur de lumière. Ben oui,
J'aimerais ça ne rien voir comme tout le monde, pas s'en faire comme tout le monde, tout connaître puis tout savoir, parler sans dire puis regarder sans voir. Il adore le monde, mais il est tout seul au monde, il mouille dans son désert. Ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée mais fière, fière d'aller face au vent mauvais, fière d'aimer même en enfer, fière de lui, fière de toi aussi. Bonhomme de rue, bonhomme de rien, bonhomme qui voit clair. Barbouilleur de parchemin, chercheur de lumière. Ben oui, poète des temps gris.
Poète des temps gris, une chanson de Daniel Boucher.
Un simple accident remporte la Palme d'Or. C'était un peu une évidence dans le bon sens que de décerner la Palme d'Or au film Un simple accident de Jafar Panahi. Ce film tourné clandestinement très critique de la République islamique d'Iran qui a persécuté le cinéaste est puissant, courageux et étonnamment drôle, quoique d'une terrible lucidité. Manifestement d'accord avec le jury présidé par Juliette Binoche, la salle a longuement ovationné Jafar Panahi, surveillé, emprisonné, privé de passeport et n'était pas revenu à Cannes depuis 15 ans. Faire un film engagé n'a pas été facile, a-t-il lancé. Visiblement ému, un simple accident a pour protagoniste un homme qui croit avoir reconnu l'agent de l'État qui l'a torturé quelques années auparavant. S'ensuit une série de rencontres avec d'autres victimes dans l'espoir que l'une d'elles puisse identifier le présumé bourreau. Les prix ont été décernés hier lors de la fermeture de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Alors, félicitations pour ce film, Un simple accident de Jafar Panahi qui remporte la Palme d'Or et qu'on verra au Québec très bientôt, dans les prochains mois. Maurice Richard, désigné personnage historique, le joueur le plus emblématique de l'histoire du Canadien de Montréal, Maurice Richard, a rejoint dimanche le cercle fermé des personnages historiques du Québec. C'est devant des membres émus de la famille du Rocket et d'anciens joueurs du Tricolore que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du plein air, Isabelle Charest, ont fait cette annonce. Maurice Richard n'était pas seulement un athlète exceptionnel, il a aussi incarné la fierté et les aspirations des Québécois et des Québécoises francophones, a soutenu Mathieu Lacombe lors d'un point de presse qui s'est déroulé au Centre Bell. Cette désignation a eu lieu à quelques jours du 25e anniversaire du décès de la légende, le 27 mai 2000. Il me semble que j'aurais fait ça au Forum, là où a joué Maurice Richard. Mais enfin, il est désigné personnage historique et on le salue. « Restez avec nous. Après la chanson de Mylène Farmer, on parle avec Christian Lapointe qui a mis en scène une version opératique d'Hiroshima, mon amour.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Thank you.
Ça prend du souffle pour chanter cette chanson désenchantée, ici chantée par Mylène Farmer.
Hiroshima, mon amour, un opéra inspiré de l'œuvre de Marguerite Duras, sera présenté très bientôt, demain, jusqu'au 29 mai à l'usine C. Et pour mettre en scène cette œuvre, on a fait appel à Christian Lapointe, qui est au bout du fil, en répétition, je crois bien, à l'usine C. Bonjour, Christian.
Ben bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous êtes à l'usine C actuellement?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Oui, et ça se passe bien jusqu'à maintenant parce que c'est demain la première?
Oui, 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 on a une générale ce soir, puis oui, on est prêt à recevoir le public. Là.
Oui.
C'est un opéra contemporain d'1h10, donc c'est un objet qui est plutôt... succinct. Là. Mm-hmm. On sait qu'à l'opéra, des fois, ça peut durer 3 heures.
Oui.
Mais là, c'est un objet oui, assez condensé, là, si je veux dire.
Alors, Hiroshima, mon amour, on pense tout de suite au film d'Alain René, film fin des années 50, scénarisé par Marguerite Duras. Est-ce que vous avez des souvenirs en lien avec ce film?
Ben oui, évidemment que tout le film est à propos d'ailleurs de la question de la mémoire, hein, de cette façon qu'on a d'oublier, comme stratégie de survie. Hein, donc c'est toute une analogie d'une histoire d'amour qui sert de métaphore sur la question de la mémoire de la bombe à Hiroshima. Hein, donc Duras écrit un film dans lequel, au lieu de parler de ce qui est arrivé à Hiroshima, elle dit, il est impossible de parler de ce qui est arrivé à Hiroshima, il ne reste que la capacité de parler de l'impossibilité de parler d'Hiroshima.
Ouais.
Elle fait cette métaphore sur la déflagration amoureuse, comment un grand amour, on va l'oublier des années plus tard, de la même façon qu'on a oublié le terrible événement d'Hiroshima qui pourrait plus jamais se reproduire, on a la sensation ces jours-ci.
Et Christian Lapointe, à quel moment vous avez pensé tirer un opéra de Hiroshima, mon amour? Je pense que l'idée ne vient pas nécessairement de vous.
C'est la collaboratrice à la composition musicale, donc c'est une amie à moi, Rosalind, qui est une compositrice de musique contemporaine australienne, ouais. qui avec qui j'ai fait une rencontre d'artistes au Banff Center il y a 12 ans.
Mm-hmm.
Puis j'ai dit, on pourrait faire un opéra ensemble. Puis elle m'a dit, on pourrait faire Hiroshima, mon amour, peut-être, en opéra. Puis moi, j'avais déjà travaillé sur l'œuvre de Marguerite Duras, entre autres au FTA, là, en 2013. Je suis allé relire le scénario, revoir le film, et tout d'un coup, j'ai dit, ben oui, même Marguerite Duras le dit en introduction de son livre, elle dit, il s'agit d'un propos allégorique, il s'agit en somme d'un propos d'opéra. Et à la fin, elle dit « Tu deviendras une chanson ». Elle dit ça de son amant japonais. Et donc, il y a comme un opéra enfoui là-dedans. Je me suis dit « Mon Dieu, mais c'est une très bonne idée ». Et ça a dû déjà avoir été fait. Donc, j'ai regardé, ça n'avait jamais été fait. Je me suis dit « Les droits ne doivent pas être disponibles ». Puis, j'ai demandé les droits, puis on a eu les droits. Et puis là, ben 7 ans plus tard, parce que ça, c'est en 2018, là, donc ça prend 7 ans de se rendre à une première demain.
Donc, vous avez travaillé avec votre amie que vous connaissez depuis une douzaine d'années, qui s'appelle Rosalind?
Rosalind, oui.
Rosalind. Et il y a aussi les apports du quatuor Bosini de la compagnie d'art lyrique Chant Libre.
Oui, donc Chant Libre et le quatuor Bosini sont des coproducteurs avec Carte Blanche, qui est la compagnie là, que je dirige artistiquement. Donc, Chant Libre s'est occupé de tout. Moi, j'ai fait l'adaptation en livret. Rosa a fait le travail de composition musicale. Puis avec ça, ben, Chant Libre, on a fait un casting avec ces Chants Libres qui est tout sur la question des chanteuses et des chanteurs. Et puis, on a demandé au quatuor Bosini de s'occuper d'être le groupe, si on veut, l'orchestre de chambre. Donc, ils se sont adjoints 4 musiciens de plus, clarinette, flûte, harpe et percussion, avec un quatuor à cordes. Donc, ils sont 8 musiciens en scène pour jouer la musique de Rosalind.
Et qui incarne les amoureux, l'actrice française et l'homme marié, le japonais?
Donc, il y a 2 choses que j'ai fait dans mon travail de librettiste, on va dire. C'est d'abord, j'ai divisé le rôle de la femme en 2. Donc, je convoque aussi sur scène la figure de l'autrice, si on veut. Donc,
la figure de l'autrice.
Oui, de Marguerite Duras.
Okay.
Donc, Marguerite Duras, c'est comme en scène, en train d'écrire le scénario. Si on
oui.
Hein, parce que Duras faisait des films aussi, des films très radicaux, mm-hmm. qui sont encore des films d'avant-garde à notre époque, si j'ose dire. Et donc, j'ai comme divisé la partition de elle en 2, entre Marie-Annick qui dirige Chant libre et Ellen Weiser qui est une soprano qui incarne cette femme française. Et puis c'est Yamato Bro-Hori qui est plutôt un performeur vocal qu'un chanteur, c'est pas un chanteur lyrique là, c'est un gars qui a un groupe de folk punk, je dirais là.
Ah oui.
C'est un gars qui est demi-japonais, demi-québécois, un garçon, un jeune homme de Sherbrooke. Oui, puis on a convoqué cette troisième voix avec cette idée qu'il y a une forme de l'altérité. Hein? L'acteur japonais qui jouait dans le film ne parlait pas français quand il a eu le rôle, donc il a appris le français pour le rôle. Donc, et il y a cette question de l'altérité. Donc là, ici, c'est à propos de la culture musicale, puis du type de voix, puis de registre. Donc, il y a un déplacement là, qui est fait, qui est assez intéressant, qui bouscule les codes aussi de cet art lyrique.
Et bien oui, on s'en va pas là. C'est pas un opéra classique, là. C'est pas Madame Butterfly ou.
Non, ben c'est un nouvel opéra déjà. C'est un opéra qui n'existe pas avant demain soir.
Tout à fait, une création, donc, c'est merveilleux.
Exact, exact. Oui, c'est assez rare, hein, les opéras francophones contemporains. Il n'y en a pas des masses, là. Le dernier, moi, qui est passé au répertoire, c'est L'Amour de loin. C'est le début des années 2000, là, si je ne m'abuse.
L'Amour de loin, je me souviens
ouais,
pas.
Oui, c'est un opéra dont je me souviens plus le nom du compositeur, vite comme ça, là, mais je sais que Lepage avait fait ça, là, si je me souviens bien, au Festival d'opéra à Québec. Donc, c'est un nouvel opéra du répertoire francophone qu'on essaie, qui va, je l'espère, passer au répertoire. Mais aussi, l'autre chose que j'ai faite dans la mise en scène, c'est que, tu sais, dans le film, il y a toute une scène où elle se souvient d'un amant allemand qu'elle a eu à la fin de la Deuxième Guerre en France. Et elle parle de ça avec son amant japonais, puis comment elle s'est fait raser après la guerre pour avoir couché avec l'ennemi d'une certaine manière. Puis toute cette affaire-là des femmes françaises qui se sont fait raser pour avoir été en relation avec l'ennemi, c'est ce film-là qui a mis ça comme un fait qui est devenu connu. Avant ce film-là, c'était pas un fait très avéré, en fait.
Non.
Et donc là, moi, je mets en scène le performeur cinématographique Carl Lemieux, qui est un cinéaste, mais qui fait aussi de la performance avec des projecteurs 16 mm. Et là, il vient avec la bobine en pellicule, il vient comme altérer le film en étant la figure à la fois de ce souvenir de l'amant allemand. Donc, il y a beaucoup de mise en abîme, beaucoup de méta-théâtralité. C'est très contemporain. En même temps, c'est un opéra, c'est très élégant. Je dirais que j'ai produit quand même avec le Quatuor et puis Chant libre un objet très institutionnel, même si on est au FTA. Mais il y a la dégaine là, du théâtre contemporain avec ses jeux de méta-théâtralité.
C'est la première fois que vous mettez en scène un opéra, Christian Lapointe.
Oui, écoutez, moi, j'ai fait plus d'une trentaine de mises en scène, là, de toutes sortes.
Bien oui, juste 30.
Oui, des performances, des fois très exigeantes, des fois des œuvres du répertoire symboliste. Donc, j'ai fait, plusieurs choses.
Est-ce que ce projet vous a fait arracher les cheveux sur la tête ou c'était un projet qui ressemblait aux autres où vous plongez toujours dans quelque chose de plutôt risqué?
Oui, ben moi j'ai pris l'habitude avec le temps de toujours essayer de faire des choses que je ne sais pas faire. Donc
ouais.
Faire un opéra, je ne savais pas faire ça. Là, en faisant une première expérience de ça, évidemment, il y a des défis là-dedans. Hein. La musique, c'est assez fixe. Cet univers des artistes de musique classique, c'est un autre univers avec ses souplesses et ses rigidités propres. C'est un beau défi. Et puis faire un opéra qui existe déjà, ben on peut l'entendre, on peut regarder des, tu sais, parce que dans un opéra, il y a des moments où il y a la musique et là on peut faire des choses à la mise en scène sur le plateau quand ils sont pas en train de chanter. Et là, quand l'opéra existe déjà, on sait c'est quoi en tel moment et tel moment, il y a 50 secondes de musique. Qu'est-ce que bon, un tel metteur en scène, puis c'est ça qui a fait comme action, un autre tel. Mais là, quand c'est un opéra flambant neuf, tout est à découvrir. On n'a pas les références. Donc c'est un ouvrage assez exigeant, mais moi je travaille dans le plaisir là toujours.
Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire d'autres opéras?
Oui, certainement. Ouais. C'est sûr que là, moi, j'ai eu la chance de créer ça de manière indépendante. Donc, j'ai eu toute la latitude de production là. Créer un opéra contemporain par soi-même avec des moyens intéressants. On a été financé quand même par le Fonds de création du Centre national des arts. Ça nous a donné une grande bouffée d'air pour la création. C'est sûr que c'est des structures de production dans les maisons d'opéra que je connais moins. Là, j'ai pu créer avec une équipe qui est celle avec qui je crée la plupart du temps, puis selon des structures de production qui me ressemblent. Donc, ça m'a donné beaucoup de liberté. Mais oui, certainement, j'aimerais beaucoup. C'est tout un univers. Puis moi, ben, j'ai toujours fait de la musique aussi.
Et dans la plupart des opéras, il y a toujours un ou deux des airs là, inoubliables. Est-ce qu'on trouve ça dans Hiroshima, mon amour?
Des leitmotivs, là, si vous voulez, là, écoutez, c'est quand même la musique de Rosalind, c'est une musique plutôt aérienne, c'est une musique contemporaine que j'aime à dire qui est écoutable, là, tu sais, des fois, la musique contemporaine, elle peut être très, très exigeante.
Ouais.
Là, c'est une musique contemporaine qui est très élevante pour l'âme, mais assez flottante, assez rêveuse.
Ça fait du bien, ça. La musique qui élève et qui nous fait flotter.
Il n'y a pas nécessairement cette structure classique là, de leitmotiv associée au personnage. Je sais qu'elle, elle a associé la clarinette à l'amant allemand. Tu sais, il y a des espèces de... Dans l'imaginaire de la compositrice, il y a des jeux de renvoi entre les différents éléments. Mais c'est peut-être... Et c'est son premier opéra. Hein. C'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a beaucoup de bagages de composition musicale, mais c'est son premier opéra. Puis je pense que c'est assez rare, là, les opéras composés par des femmes. Donc ça, c'est assez intéressant aussi.
Oui.
C'est fait à partir du texte d'une femme qui met en scène deux femmes, parce que là, j'ai divisé le rôle en deux, et qui est composé aussi par une femme. Donc c'est assez heureux, tout ça.
Beaucoup de premières, mais faites par des gens d'expérience.
Oui, l'éclairagiste, c'est Sonoyo Nishikawa, elle vient de gagner le prix Siminovitch de Conception. La scénographe, c'est Annick Labissonnière, qui a gagné le même prix il y a 15 ans, donc il est le plus grand prix de théâtre au Canada. Donc c'est oui, il y a des gens très aguerris là qui travaillent avec moi. Là.
Alors, il faut se rendre à l'usine C. 3 représentations, j'espère qu'il y en aura d'autres. 27 mai, c'est demain, jusqu'au 29 mai, Hiroshima, mon amour, un opéra contemporain mis en scène par Christian Lapointe, avec qui j'échangeais. Merci, Christian Lapointe et le mot de Cambronne.
Merci, au plaisir de vous y voir.
Merci.
Dans ma tête, l'hiver survit sur nos cas, et moi, chasse les ombres sous la serre. Allons voir où tu veux s'être quand. Se rouler en nous,
peut-être qu'on ira mieux rouler à nous, même s'il nous reste trop à faire.
Rouler en nous, c'est une chanson de Bobby Bazini.
Projet télé extraordinaire cherche la perle rare. Pour une série télé québécoise, l'équipe de casting Pierre Pageot est à la recherche de candidats pour un personnage au casting fort particulier. L'équipe de production cherche un homme pour un personnage masculin âgé entre 38 et 50 ans. Bouille sympathique avec un bon sens de l'humour, l'homme en question vit avec un handicap physique qui le limite dans ses déplacements. Cet homme cherche à vivre une première expérience d'intimité avec une femme. En ce qui concerne le handicap ou les limitations du personnage, l'équipe du casting est ouverte. Le personnage pourrait se déplacer en fauteuil roulant, mais il pourrait aussi vivre avec une autre condition complètement différente du type trouble de langage ou cognitif, être un artiste neurodivergent ou autre. Veuillez préciser ces informations au moment de transmettre votre candidature. Le tournage se fera à Montréal entre septembre et la mi-décembre 2025. Pour participer, les candidatures devront être transmises avant le 29 mai 2025 à info@castingpierrepageot.com. Pageot s'écrit P-A-G-E-A-U. Envoyez votre candidature avec une photo récente de vous. Seuls les candidats retenus seront contactés. On invite les artistes déjà représentés par un agent à en discuter avec celui-ci ou celle-ci pour éviter de vous suggérer de nouveau. Alors, je vous rappelle l'adresse info@castingpierrepageot.com. Et je termine avec le chanteur et pianiste âgé de 76 ans, Billy Joel, qui devait entamer le 5 juillet à Pittsburgh, en Pennsylvanie, une série de concerts dans des stades et aux côtés d'autres artistes de renom comme Rod Stewart ou Sting. Eh bien, il doit mettre ce projet de côté. Dans un communiqué, son équipe a précisé que l'annulation de ses concerts, qui devait s'étirer sur un an, est due à un diagnostic d'hydrocéphalie à pression normale, un trouble neurologique lié à une trop grande accumulation de liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Sa condition s'est détériorée lors de concerts récents, ce qui lui a causé des problèmes d'audition, de vue et d'équilibre, et le force à suivre une physiothérapie, poursuit le communiqué. Alors, il est désolé, mais on comprend bien. Billy Joel, prompt rétablissement. On va se laisser avec une de ses plus belles, Just the Way You Are. Et là-dessus, je vous souhaite une agréable journée. Merci à toute l'équipe. Ici Hélène Denis qui vous retrouve demain à compter de 9h30.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Some new fashion, don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. Want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that.
that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart, I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. Someone that I can talk to. I want you just